Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Céline Guillaume.
Bonjour et bienvenue. On connaît à peu près tous ces petits moments de baisse de morale, de spleen, de cafard ou de blues. Mais quand la tristesse s'installe durablement, que les joies du quotidien deviennent fades, sans intérêt et la fatigue envahissante, on parle alors peut-être de dépression. Une personne sur cinq a souffert ou souffrira de cette maladie mentale, c'en est une très répandue. Dans le monde, on estime à 300 millions les personnes atteintes de ce trouble. Autre chiffre qui interpelle, le risque de suicide. Il est au moins multiplié par 10 pour cette pathologie. D'intensité variable, elle altère la qualité de vie de ceux qui en souffrent. Elle place souvent les proches dans l'incompréhension et l'impuissance à agir. Ils peuvent aussi être maladroits. Les professionnels de ce trouble savent très bien le prendre en charge et dans la majorité des cas, 70%, c'est encourageant, la lumière peut refaire surface, même chez ceux qui ont des idées noires. En ce 27 octobre, journée européenne de la dépression, notre thème, donc aujourd'hui, vous l'avez compris, nous accueillons le professeur Franck Bellivier. Professeur Bellivier, bonjour.
Bonjour, Céline Guillaume.
Vous êtes professeur de psychiatrie adulte à l'Université Denis Diderot à Paris, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie au ministère de la Santé, responsable du service de psychiatrie et du service de médecine addictologie du groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière Fernand Vidal à Paris. Se joindra à nous au cours de cette discussion depuis le Mali, le professeur Baba Koumaré, psychiatre, psychothérapeute à Bamako. Et en toute fin d'émission, nous ferons un point sur la 14e édition du Congrès international de l'Albatros. Il s'agit d'une rencontre professionnelle et multidisciplinaire autour de l'addictologie qui n'est pas déconnectée justement de la dépression. Elle débute aujourd'hui cette rencontre pour 3 jours jusqu'au 29, donc au Novotel Tour Eiffel à Paris. Nous en parlerons avec le fondateur et président, le professeur Amine Benyamina, psychiatre addictologue, chef du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, c'est en région parisienne.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Bellivier, n'utilise-t-on pas ce mot dépression parfois à tort et à travers ?
Alors, ce terme est effectivement rentré dans le langage courant pour désigner différentes choses en réalité. Et c'est très important en effet de distinguer des réactions émotionnelles à des facteurs de stress, à des facteurs psychosociaux, des facteurs d'adversité qui sont des réactions émotionnelles normales, l'anxiété, la tristesse de l'humeur peuvent être des manifestations adaptées à ces situations où l'on rencontre des facteurs de stress. Mais c'est très important de différencier ce qui se trouve sous ce terme, cette autre réalité qui se trouve sous ce terme, qui est une maladie fréquente, grave, qui nécessite des soins et qui s'appelle également la dépression.
Cette dépression caractérisée, quels sont ces symptômes principaux? Quels sont ces signes d'alerte?
Alors, le diagnostic de dépression repose sur un groupe de symptômes qu'il est important de reconnaître. Il y a d'abord la tristesse de l'humeur, le ralentissement psychomoteur, qui est parfois absent, en particulier quand la dépression s'associe à de l'anxiété, qui au contraire peut mobiliser et activer la personne. C'est également une vision négative du monde, une vision négative de soi-même, une vision négative de l'avenir. Et puis enfin, il y a un quatrième groupe de symptômes qui sont des symptômes plutôt physiques, troubles du sommeil, baisse de l'appétit, voire amaigrissement, baisse de la libido, qui sont également des symptômes cardinaux de l'épisode dépressif caractérisé. Ce qui est très important, c'est que ces symptômes sont stables dans le temps et placent la personne en rupture par rapport à son fonctionnement habituel. Et le premier signe de reconnaissance par la personne elle-même et par son entourage, c'est « il n'est pas comme d'habitude ».
Ces symptômes peuvent-ils aller jusqu'à l'incapacité, par exemple, de travail ?
Ah, bien entendu, c'est une maladie qui est handicapante dans tous les domaines de la vie, le travail, les relations affectives, les relations sociales. Et cette notion de handicap fait partie du diagnostic. C'est d'ailleurs ça qui fait que la dépression est leader dans les sources de coûts et de handicap, puisque c'est associé à des arrêts de travail et à une incapacité.
La France est en train de faire face à cette deuxième vague du Covid-19. Aux États-Unis, la crise sanitaire a multiplié par 3 les cas de dépression. Devons-nous également redouter un tsunami, vous me direz si le mot est trop fort, de patients dépressifs? Je pense au personnel soignant, je pense aux restaurateurs, je pense également à tous ces patrons de boîtes de nuit, une profession qui est complètement sinistrée, les aides-soignants évidemment. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour tous ces professionnels?
Alors la question est importante et elle est complexe. Dans une situation inédite comme celle que nous vivons aujourd'hui, avec une augmentation importante de ces facteurs de stress, de la précarité matérielle, financière, sociale, ce sentiment envahissant d'incertitude de l'avenir, il y a en effet de la souffrance psychique qui naît dans la population générale. Ça impacte également, mais de manière différente, puisque les réponses qu'on doit y apporter ne sont pas les mêmes selon que l'on est chez des personnes qui sont déjà suivies pour une pathologie psychique, selon que l'on considère ces états de souffrance psychique dans la population générale, ou selon que considère la situation des soignants qui, évidemment, sont lourdement impactés par la gestion de cette crise, ce d'autant qu'elle dure. L'ensemble de ces facteurs de stress, d'adversité, peuvent favoriser l'apparition de dépression chez des personnes qui ont une vulnérabilité par rapport à cette maladie, mais on ne peut pas pour autant considérer que nous allons avoir une épidémie de dépression dans la population générale. On note cependant, en effet, des nouveaux cas, des cas qu'on appelle incidents, de différentes pathologies psychiatriques dans ce contexte extrêmement stressant.
Sait-on pourquoi les femmes sont davantage concernées par la dépression, touchées par la dépression, que les hommes? Le ratio est de 2 femmes pour un homme.
Ce n'est pas totalement expliqué. Il y a évidemment des facteurs psychosociaux qui sont particuliers aux femmes qui pourraient contribuer à faire qu'elles soient plus touchées par la dépression. Il y a également des constitutions biologiques qui peuvent être, et notamment le rôle des hormones femelles qui peuvent jouer un rôle dans la vulnérabilité à la dépression. En tout cas, ce phénomène-là n'est pas totalement expliqué. Il y a des pathologies de l'humeur, comme les troubles bipolaires par exemple, qui touchent de manière équivalente les hommes et les femmes.
Nous allons accueillir un homme sur notre antenne. Il s'agit de Thomas, depuis Conakry, en Guinée. Bonjour Thomas.
Bonjour Céline.
Bienvenue sur notre antenne. Le professeur Bélivier est avec nous. Nous vous écoutons Thomas.
J'ai 24 ans. Et il y a cela, un bon moment, j'ai constaté des pertes fréquentes de mémoire. Durant toute la journée, des fois, il m'arrive même d'oublier mon propre mot de passe. Je suis nerveux, j'aime la solitude. J'oublie fréquemment. Il se peut que les actes que j'ai faits hier et aujourd'hui, je peux les confondre. Je ne sais pas ce que j'ai fait hier et ce que j'ai fait aujourd'hui. Franchement, ça me fatigue. C'est pourquoi j'ai essayé de vous contacter, de savoir si je souffre d'une dépression mentale ou bien s'il y a un autre moyen qui peut m'aider, franchement.
Thomas, vous dites ne pas avoir vu pour le moment de médecin, mais vous êtes aujourd'hui dans une démarche très certainement qui va vous permettre d'aller mieux. Je vais laisser le professeur Bélivier vous répondre.
Alors, sur la question que vous posez, qui est de savoir si vous souffrez d'une dépression, vous fournissez dans votre témoignage, et d'ailleurs au passage, je vous remercie de prendre la parole pour témoigner de cet état que vous présentez, car c'est très important de ne pas rester seul quand on voit son état émotionnel se modifier. Et rechercher de l'aide, c'est certainement un conseil qu'on peut donner à tous ceux qui connaissent des états de détresse ou des modifications de leur état émotionnel. Donc dans votre témoignage, il y a quelques éléments qui peuvent faire penser à un épisode dépressif qui a l'air de durer. Cette tristesse de l'humeur, cet effort que vous faites heure après heure pour continuer à fonctionner normalement. Vous avez signalé également des idées suicidaires. Ça peut aussi faire partie du tableau de dépression. Le conseil que je peux vous donner, c'est certainement de consulter un médecin pour préciser les autres signes qui pourraient conclure, permettre de conclure à une dépression caractérisée et donc vous conseiller un traitement.
Ah, d'accord.
Thomas, s'est-il passé quelque chose de particulier ? Y a-t-il eu un événement particulier dans votre vie il y a 2 ans, puisque vous dites qu'il y a 2 ans, depuis 2 ans ?
Non,
vous...
depuis 2 ans, non. En fait, j'avais essayé de prendre l'alcool pour voir si ça peut m'aider, mais bon, ça ne fait que dégrader mon état et j'ai décidé d'arrêter à cela 3 mois.
Alors, vous signalez 2 choses très importantes. La première, c'est le recours à l'alcool. L'alcool est un produit qui calme l'anxiété, mais qui est très dépressogène, c'est-à-dire qu'il favorise la dépression. Donc, se tenir à distance de l'alcool, c'est très important. L'autre chose que vous signalez, c'est qu'une dépression peut survenir sans facteur déclenchant. Et donc, un épisode dépressif ne survient pas toujours en réaction à des facteurs de stress qui le déclenchent. Ça peut arriver, bien entendu, mais c'est très important de reconnaître qu'il n'y a pas toujours une raison.
Thomas.
D'accord.
Donc la suite pour vous, dans un premier temps, c'est consulter, pour préciser, prendre rendez-vous, consulter, prendre un avis médical pour préciser exactement de quoi vous souffrez, même s'il y a ce tableau qui semble aller vers la dépression, professeur.
2 ans, c'est long, donc il faut consulter, il faut prendre conseil. Vous pouvez aussi regarder sur Internet, il y a des sites de ressources qui donnent des conseils pour la gestion de la dépression et qui confirmeront ce que je viens de vous dire, qui est de ne pas rester seul, de chercher de l'aide et en particulier l'aide d'un médecin.
Et il y a un premier pas mais qui vient d'être franchi à l'instant, Thomas. Vous venez de franchir un premier pas.
D'accord, mais au fait d'être avec les gens, ça me rend nerveux. J'aime pas, j'aime la solitude et la tranquillité.
Oui, et ça aussi c'est un signe de dépression, quand les conversations des autres nous fatiguent, quand on a du mal à se concentrer ou à s'intéresser ou à prendre du plaisir à être avec les autres, ça aussi c'est un signe de dépression. Quand je vous disais de ne pas rester seul, c'est de rechercher de l'aide pour vos soins.
D'accord.
Ça va aller, Thomas ? On compte sur vous ?
Oui, je vais essayer.
Et puis peut-être... essayez de, pourquoi pas, d'avoir une petite vie sociale, professeur Bélivier, qu'en dites-vous, discuter? Il s'est isolé de ses amis. Est-ce que ça, est-ce qu'on peut essayer de nouer un petit lien?
Mais Thomas dit lui-même que c'est difficile pour lui, probablement culpabilisant, de ne pas être à son niveau de fonctionnement habituel, de ne pas être capable de se réjouir d'être avec
comme
ses
avant.
Amis et d'être un peu éteint. Et ça le fait probablement culpabiliser dans ses relations amicales qui ne sont plus nourrissantes comme elles pouvaient l'être avant. Ce repli sur soi, c'est souvent aussi pour se protéger de cette situation qui est éprouvante de devoir donner le change quand les ressources ne sont plus là pour cela. Ce qui est important, c'est peut-être de partager certaines de vos difficultés avec ceux de votre entourage qui ont manifesté le souhait de vous aider, de vous appuyer. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour eux, c'est compliqué à comprendre et leur donner des informations sur ce qui vous arrive peut permettre de les rassurer, surtout si vous avez des idées suicidaires.
D'accord, merci.
Merci beaucoup, Thomas.
Merci, Céline.
Au revoir, à très bientôt sur notre antenne.
Au revoir.
Au revoir. Professeur Bélivier, la tranche d'âge à laquelle appartient Thomas, elle est assez sensible. En France, le suicide des 15-24 ans est la deuxième cause de décès.
Entre 15 et 35 ans, c'est la première cause de décès. Et les troubles de l'humeur, la dépression, sont parmi les pathologies les plus suicidogènes. Et on retrouve souvent une dépression chez les personnes qui font des tentatives de suicide. Mais le pic d'apparition des troubles de l'humeur, c'est entre 15 et 25 ans. Et donc, chez les adolescents, lors des premières manifestations de dépression, c'est important de repérer précocement pour prendre en charge précocement.
Chez les ados, est-ce que les symptômes de la dépression, puisqu'on parle des jeunes, là, je parle encore plus jeunes, est-ce que les symptômes de la dépression peuvent parfois être confondus avec le développement normal de l'adolescence et cette fameuse crise de l'adolescence.
Alors c'est un point très important parce qu'en effet, les premières manifestations d'un trouble anxieux, les premières manifestations d'un trouble de l'humeur, d'une dépression chez les adolescents sont parfois atypiques et peuvent prendre la forme de troubles du comportement, de consommation de toxiques qui brouillent l'analyse et le diagnostic ou qui rendent plus difficile le diagnostic de dépression, ce d'autant que il est considéré culturellement normal, habituel qu'un adolescent se rebelle, qu'un adolescent soit dans l'opposition. Mais là encore, il n'y a pas d'inconvénient à consulter pour, grâce à l'aide d'un spécialiste, psychologue, psychiatre, faire la différence entre ce qui relève d'un processus de développement, d'individuation et qui fait partie du développement normal d'un individu, de ce qui est un authentique état de souffrance psychique.
Dans un instant, nous allons nous intéresser à la dépression chez les personnes âgées et accueillir un nouvel auditeur dans cette discussion.
Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito.
Vous écoutez Lila Downs avec Carinito. À l'instant, nous sommes toujours en compagnie du professeur Bélivier, psychiatre adulte à Paris, et nous parlons de la dépression. Pour en parler, pour partager cette émission avec nous et partager son histoire, nous accueillons Prosper Anjamena. Bonjour Prosper.
Allô.
Bonjour. Vous êtes
bonjour
à l'antenne,
Céline.
Prosper. Bienvenue parmi nous.
Bonjour Céline. Bonjour professeur.
Bonjour.
Nous vous écoutons Prosper.
Ok, j'ai 35 ans, je souffre de la dépression depuis 2013, ça fait déjà 7 ans. Donc, ma vie est franchement infernale. C'était dû à la marijuana, j'avais touché à la marijuana et le sommeil a disparu. Donc, je suis allé consulter un psychiatre en Russie. et il m'avait dit que je souffrais de la dépression. Donc, j'ai aussi vu tout mon rêve se volatiliser parce que j'avais voulu être docteur en génie civil. Donc, j'étais obligé de rentrer d'une manière catastrophique au Tchad. Donc, les parents m'ont amené au Cameroun parce qu'au Tchad, on n'a qu'un seul psychiatre. Donc, j'étais obligé d'être amené au Cameroun pour voir un psychiatre. Et depuis lors, je repars chaque 3 mois au Cameroun pour le suivi. Et franchement, j'ai des problèmes à dormir. Et le psychiatre m'avait changé plusieurs antidépresseurs. Et finalement, il a retenu un seul. Et puis, un anxiolytique aussi que je prends chaque nuit. Et ces médicaments ont beaucoup d'effets secondaires sur moi. Donc, j'aimerais vous demander, est-ce que je peux un jour recouvrer la santé? Est-ce que je peux mener une vie normale un jour? Cela me permettra également de retrouver une vie normale que j'avais auparavant, c'est-à-dire de reprendre mes études, quoi.
Oui, on vous souhaite de renouer avec vos projets, professeur Bélivier.
Prosper, vous témoignez de choses très importantes. En effet, et c'est important de le souligner pour ne pas désespérer, il est souvent nécessaire d'essayer plusieurs traitements avant de trouver celui qui sera efficace et qui sera bien toléré. Bien toléré, c'est très important. Parce que ces traitements doivent être pris plusieurs mois, parfois plusieurs années. Et donc, c'est important de trouver le traitement qui sera bien toléré au long cours. Ce qui est important dans votre témoignage, c'est également que vous avez noté que ça avait contribué à améliorer votre situation. Et donc, il faut persévérer dans cette direction. C'est très important. Et ce qui est compliqué à comprendre, c'est le temps que ça prend. C'est la cicatrisation d'une dépression, une fois qu'on a trouvé le traitement efficace, ça prend beaucoup de temps. Et au-delà du traitement médicamenteux, c'est la reprise progressive, mais j'insiste sur ce terme progressif, des activités avant de pouvoir retrouver ses pleines capacités, notamment psychiques, concentration, mémoire. Votre ambition est de reprendre vos études, donc il faudra que cet épisode soit traité longtemps, que vous soyez stabilisé, que vous ayez retrouvé vos capacités pendant un temps suffisant avant de pouvoir vous réinvestir dans vos études. L'expérience que vous avez faite de cette dépression qui a duré longtemps est une expérience très insécurisante et donc c'est parce que vous allez aller mieux pendant un certain temps que vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. J'insiste aussi sur le fait que ce n'est pas que les traitements médicamenteux, il y a d'autres ressources qui peuvent contribuer à votre rétablissement. Je ne sais pas s'il est possible pour vous d'avoir un suivi psychologique, mais l'exercice physique, la régularité du sommeil, une bonne hygiène alimentaire, tout ça sont des éléments qui contribuent au rétablissement.
D'accord, merci beaucoup.
Prosper, vous dites avoir perdu beaucoup d'amis. Ce cercle vous manque?
Oui, j'ai perdu 7 ans. Et puis, pendant les 7 ans, j'ai eu à décrocher un petit travail. J'ai travaillé 2 ans avant que le contrat ne prenne fin. Donc, maintenant, là, je suis devenu oisif. Comme il n'y a pas le boulot, je suis oisif. Et puis, il y a aussi une discrimination. J'ai perdu beaucoup d'amis. Il y a des amis qui me traitent de fou. Donc, maintenant, je me retrouve seul.
Mais là encore, votre prise de parole aujourd'hui sur RFI est très importante pour justement sortir de sa clandestinité et lutter contre la stigmatisation dont font l'objet ces troubles de l'humeur et la dépression, qui sont des états qui sont très difficiles à comprendre et il faut encourager votre entourage familial, amical, à se documenter, à se renseigner sur la dépression pour mieux comprendre ces modifications très profondes de la personne, que la personne connaît pendant ces épisodes. Mais une rémission est possible, bien sûr.
Ouais, ça, c'est aussi le message que vous vouliez entendre, Prosper. Une rémission est possible.
Oui, c'est très positif et ça m'encourage. Merci beaucoup.
Tant mieux. Ajoutez du sport donc à tout ce qu'on a pu vous dire, vos consultations, un peu du sport, ça peut aussi vous aider. Le professeur Bélivier vous l'a indiqué. N'hésitez pas. Profitez-en. Vous allez vous muscler en plus, donc c'est gagnant-gagnant.
Merci beaucoup.
À bientôt, Prosper. On vous souhaite bon courage.
Merci beaucoup. Merci.
Professeur Bélivier, connaît-on la prévalence au sein de la population des personnes âgées de la dépression ?
Alors, tout dépend où on démarre.
Oui, il y a toujours cette tranche d'âge à définir.
Il y a une fréquence importante de la dépression dans le grand âge. Ce qui est important de souligner, c'est surtout la dangerosité de la dépression chez le sujet âgé, puisque les décès par suicide sont plus fréquents chez les personnes mûres. Donc la dépression est plus dangereuse de ce point de vue-là chez les personnes âgées. La chose importante, c'est la survenue d'un premier épisode de dépression dans la maturité, après 50 ans, doit faire rechercher une pathologie neurologique. Ça, c'est très important.
Type Alzheimer ou...
Alors, ça peut être des états de détérioration cognitive, type Alzheimer, ou toute autre pathologie ou toute autre agression du système nerveux central peut se manifester chez la personne âgée par des symptômes dépressifs ou par une décompensation dépressive. Les troubles de l'humeur, la dépression est une pathologie du sujet jeune. Le plus souvent, ça survient pour la première fois entre 15 et 25 ans. Donc la survenue d'un premier épisode dépressif chez une personne âgée doit faire rechercher une cause. Ça, c'est très important. Indépendamment de ce point que je souhaitais souligner, ce qui est très important, c'est effectivement les risques associés à la dépression du sujet âgé, perte d'autonomie, retentissement sur le plan somatique, et puis, comme je l'ai indiqué au début, suicide.
Les risques de suicide élevés, donc, à surveiller et à prendre encore une fois très au sérieux. Nous accueillons Ramazan dans cette discussion. Bonjour Ramazan.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Vous êtes en RDC, nous vous écoutons.
Merci. J'ai connu des problèmes de dépression depuis 2011. Quand j'ai perdu un cousin, j'étais trop perturbé. J'ai connu vraiment des perturbations anormales dans mon corps, notamment des céphalées qui étaient chroniques, des vertiges, une forme de qui était vraiment continuelle. J'avais des insomnies, une sensation du mal sur la peau et j'avais un peu de crampes le matin. J'avais consulté un psychiatre, il m'avait fait des médicaments, je les avais pris et à un moment donné, je m'étais senti un peu bien. Mais en 2017, les symptômes se sont encore aggravés et j'avais vu un signe qui était anormal par rapport au premier. C'était une faiblesse au niveau de la main gauche, au niveau de la jambe gauche et l'œil gauche. Et j'ai senti la partie de mes lèvres, la partie gauche de mes lèvres qui était un peu affinée. J'avais consulté le neurologue. Il m'avait prescrit des molécules telles que l'anafranidine, le sésame. Et il m'avait prescrit la mitriptyline. J'avais pris les deux premières molécules pendant 2 jours. Et puis, j'ai continué à prendre maintenant de la mitriptyline dès le soir. Et puis, à un moment donné, un comprimé le soir. Et maintenant, je prends un demi-comprimé le soir. Mais jusque-là, j'ai toujours des problèmes de concentration. J'ai difficile à me concentrer, prendre même temps sur la machine, l'ordinateur, sur la tablette ou sur un téléphone Android. Ça me fait très mal. À part ça, parfois j'ai des insomnies. Quand je me concentre longtemps sur la machine, quand je me concentre longtemps sur le téléphone Android ou la tablette. Maintenant, je me pose certaines questions. Je ne sais pas si je peux les poser.
Posez vos questions. Allez-y. Allez-y, Ramazan.
Okay. Maintenant, je me pose la question suivante. Parfois, je me dis d'arrêter de prendre la molécule, la mitriptyline. Mais quand j'arrête, je vois que les symptômes apparaissent encore, notamment les insomnies, et la sensation du piment sur la peau, mais aussi de vertige. Alors, je me pose la question, est-ce que je vais rester amitriptylino-dépendante toute ma vie? C'est ça mon inquiétude.
Professeur Bélivier.
Alors, je vais essayer de répondre à votre question, mais je voudrais revenir avant sur ce que vous, votre témoignage. Et là encore, comme je l'ai dit pour Prosper, vous avez fait l'expérience d'un tâtonnement avant de trouver le traitement qui a permis d'améliorer certains symptômes, en particulier le sommeil. Vous avez signalé que l'utilisation des tablettes et du téléphone avait un retentissement sur votre sommeil. Ça, c'est très important de rappeler que l'exposition aux écrans peut perturber le sommeil, en particulier quand on les utilise le soir. Parce que finalement, le cerveau réagit à la luminosité des tablettes en pensant qu'il fait jour. Et donc, une manière de se préparer au sommeil, puisque vous souffrez, c'est surtout ça qui vous gêne, d'après ce que j'ai compris, c'est d'éviter d'utiliser les tablettes le soir pour favoriser l'endormissement et privilégier plutôt des activités relaxantes en fin de journée pour préparer la nuit. Est-ce que vous allez prendre de la mitriptyline pour toute la vie? La réponse est non, mais il faudra envisager avec votre médecin la baisse en vue de l'arrêt seulement une fois que l'ensemble des symptômes auront disparu. Et donc mon conseil pour l'instant, c'est de poursuivre le suivi et le traitement en continuant à chercher à améliorer les différents symptômes qui aujourd'hui vous gênent. Et pour cela, il n'y a pas que les traitements, bien entendu, comme je l'ai dit, il n'y a pas que les traitements médicamenteux, comme je l'ai dit à Prosper tout à l'heure.
Merci beaucoup Ramazan. Avez-vous pris bonne note de tous ces conseils?
Oui, j'ai pris bonne note de ce qu'on vient de me dire.
À très bientôt Ramazan. Bon courage à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Il est l'heure, professeur Bélivier, d'accueillir l'un de vos confrères, le professeur Baba Koumaré, direction le Mali.
RFI à Bamako, 98.5 FM.
Bonjour professeur Koumaré.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, bonjour à vous, bienvenue. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, professeur honoraire de psychiatrie et psychologie médicale à la faculté de médecine à Bamako, ancien chef du service de psychiatrie du CHU du Point G, toujours à Bamako.
Oui.
Nous sommes avec le professeur Bélivier que vous avez entendu sur notre antenne. Je vous le présente.
Bonjour.
Bonjour, cher confrère.
Dites-nous, professeur Koumaré, quelle tranche d'âge, population, vous semble davantage touchée par la dépression au Mali?
Merci pour cette question. Merci de m'inviter pour participer à votre émission.
C'est un grand plaisir.
Mais avant de donner cela, je crois qu'il est bon de parler d'abord de la dépression. Parce que ici, quand on parle de dépression, effectivement, comme mon confrère a eu à le souligner, là, c'est un terme fourre-tout. On voit tout dans la dépression et c'est même un euphémisme pour ne pas parler de folie ou de maladie mentale. Et donc, de ce point de vue, la tranche d'âge qui est surtout en cause dans cette affaire, la dépression, ça touche tous les âges. C'est ça la réalité, ce qu'il ne faut pas oublier. Mais je crois que effectivement, on pourra mieux préciser cela par la suite. Parce que la dépression, elle doit apparaître comme une des affections les plus fréquentes sur le plan de la pathologie mentale. Et je crois que l'intérêt de cette question, ça réside au fait que c'est elle qui va donner beaucoup plus de suicides. Donc le risque suicidaire est là. L'intérêt épidémiologique, l'intérêt thérapeutique, du fait que on peut traiter et soigner, guérir une dépression.
Professeur Koumaré, voilà. Je voudrais vous lire, partager avec vous le message d'Amadou. Il se trouve justement à Bamako. C'est un aidant Écoutez le message. J'ai deux tantes dépressives dont je m'occupe. La première, qui a aujourd'hui près de 60 ans, est tombée malade il y a 10 ans. La seconde a 45 ans et elle est tombée malade il y a 2 ans et demi. J'ai dû les amener à l'hôpital du point G. Je m'occupe de leur traitement. Les tantes et les sœurs de son père, ainsi que ses parents étaient dépressifs, un oncle. Ils se demandent donc si c'est un signe de cette maladie. Est-ce qu'il y a un facteur d'hérédité dans cette maladie? Autre question, les soins sont chers à l'hôpital. Est-ce qu'il existe une prise en charge moins chère au Mali? C'est la question d'Amadou.
Bien sûr. Je crois que là, c'est pour cela que je voulais revenir à cette notion de dépression, parce que là, il faut voir deux types de dépression d'une manière générale. Les dépressions endogènes qui sont constitutionnelles et qui peuvent renvoyer à l'hérédité et au problème de effectivement génétique. Donc, dans les familles, on peut retrouver cela, c'est là où on va parler pratiquement des psychoses maniaco-dépressives, des bipolaires, tous ces éléments qui peuvent apparaître. Mais il y a aussi les dépressions dites exogènes, c'est-à-dire que extérieures, psychogènes, que l'environnement entre en ce moment-là. Moi, je crois qu'il y a ces différences. Mais il y a une interaction entre ces deux facteurs. Si bien que dans la famille, s'il y a des problèmes de dépression, il faut vraisemblablement aller rechercher sur ce plan-là, est-ce qu'il n'y a pas une note génétique héréditaire derrière ce problème. Bien entendu, là, il y a la prise en charge sera différente de dépression exogène, bien qui a été attrapée suite à une pathologie donnée ou tout simplement réactionnelle à un événement douloureux. Quelqu'un qui a perdu un être qui lui est très cher peut développer une dépression. Donc les prises en charge sont totalement différentes et ça doit prendre en compte tous les aspects de l'individu, je veux dire de la personne humaine. Donc la perspective, la prise en charge doit se faire dans une perspective plus globale, biologique, psychologique et sociale. Ces différents domaines doivent être prise en compte. Autrement, on ne fera que un traitement tronqué.
Avez-vous un message de sensibilisation, un message à faire passer pour rassurer, encourager les personnes qui en ont besoin à venir à votre rencontre, à franchir ce pas?
Oui. Généralement, quand on parle, on a toujours peur quand on parle de dépression ou bien quand on parle de psychiatre, de psychologue. Les gens pensent tout de suite à la folie. C'est pour cela que nous, ici, le message qu'on essaie de faire passer, c'est de faire ressortir le fait que la dépression, tous ces troubles psychologiques, psychiques et les troubles neurologiques ou psychosociaux, on les met dans la grande catégorie de la santé mentale. Il faut déborder. Parce qu'une bonne santé mentale, c'est ce qui permet effectivement à l'individu d'avoir un bon équilibre. Comme ça rejoint un peu la définition même de la santé de l'OMS, un état complet de bien-être physique, mental et social. Et nous savons que cette perspective-là, la santé mentale a été longtemps occultée dans cela. C'est ce qui fait que notre système de santé ne prend pas suffisamment en compte cet aspect. Et le fait que ceci n'est pas, ça a même posé un problème depuis la déclaration d'Alma Ata en 1978, qui voulait la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous sommes en 2020, parce que la composante santé mentale n'a pas été suffisamment prise en charge. Et voilà. Donc, pour ce qui nous concerne, nous mettons l'accent sur ces trois dimensions. Donc, ça veut dire que nous restons ouverts sur le plan de biologie. Là, les médicaments ne sont pas une panacée. Ça ne répond que qu'à cette dimension du problème, sur le plan biologique, physiologique et tous ces éléments-là, et même héréditaire, sur le plan génétique.
Merci, professeur
Kouma. Le deuxième élément, c'est le plan psychologique, ça c'est la psychothérapie d'une manière générale, et tous les éléments qui peuvent être là. Et
on vous a bien entendu, professeur Koumaré, on a entendu l'importance de ces points que vous avez soulignés. Vraiment, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes psychiatre, psychothérapeute à Bamako. Peut-être en un mot, cette question d'Amadou, où peut-il trouver au Mali une prise en charge?
Il peut trouver une prise en charge au point G.
Voilà, à nouveau. Très bien. On vous remercie, professeur Koumaré.
sensible au Mali. Tout est pris en charge.
Merci à vous. Je rappelle aussi la date du jour. Nous sommes le 27 octobre, journée européenne de la dépression, un trouble qui peut mener, on l'a dit, jusqu'au suicide. Mais on l'a aussi rappelé, la prise en charge et les traitements font leurs preuves pour éviter ces drames. J'ai cette pensée pour le jeune Jérémy Winston, un footballeur originaire du Malawi, qui, avant d'être remercié, jouait à l'Académie Manchester City, donc un jeune espoir. Il aurait très mal vécu cette éviction. On a appris dimanche dernier son suicide et j'envoie ce message à nos jeunes, au moins jeunes aussi finalement, frappez à une porte et faites-vous aider. Professeur Bélivier, que pouvez-vous rajouter à ça?
Insister sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire dès les premiers signes, rechercher de l'aide. Parce que les traitements sont possibles et ils sont d'autant plus efficaces que l'on prend en charge tôt. Les idées suicidaires, les personnes qui ont des idées suicidaires sont souvent clandestins avec ces idées suicidaires. Ils ont honte, ils ont peur d'en parler. Et c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut communiquer sur ces idées suicidaires puisque une prise en charge est possible.
Merci professeur Bélivier. Je rappelle que vous êtes responsable de service psychiatrie à Paris.
Priorité santé sur RFI.
Pour ces dernières minutes d'émission, le professeur Amin Ben Yamina nous ouvre les portes de la 14e édition du Congrès international de l'Albatros qui débute aujourd'hui et va durer 3 jours. Avec lui, nous faisons un point sur cette rencontre de professionnels autour de l'addictologie. Bonjour professeur Ben Yamina.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychiatre, addictologue, chef du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, c'est en région parisienne. Vous êtes aussi le président et le fondateur de ce congrès. Quelle est la raison d'être de ce congrès et le thème précisément de cette nouvelle édition?
La raison d'être, c'est une idée assez simple. C'est essayer d'amener une fois par an des éléments liés à la recherche scientifique, au croisement des disciplines et la mise à jour des données les plus intéressantes. Pour autant, à côté de ça, c'est aussi un lieu de débat, un lieu de rencontre, parce que la psychologie est une discipline de croisement dans laquelle on a à la fois des médecins, mais pas que, il y a des soignants, des psychothérapeutes, des observateurs de la société dans laquelle on évolue. Et le format de ce congrès, depuis le départ, depuis sa création, c'est la possibilité à des orateurs de renom international de venir exposer suffisamment longtemps leur point de vue, avec des modérations et un échange avec la salle. Et puis, on a aussi un lieu de découverte des jeunes talents, ce sont les ateliers de recherche, et le dernier jour, on a des débats. Cette année, par exemple, on a un débat autour de l'actualité, c'est les effets du Covid en addictologie et en psychiatrie, et avec une comparaison avec des données qui viennent de Columbia University à New York.
Combien de professionnels seront là? Quelles spécialités seront représentées aussi?
Habituellement, on est à peu près 800-850, mais cette année, j'ai volontairement baissé la voilure du fait de la pandémie avec une organisation hybride. Nos collègues outre-Atlantique et étrangers, ils sont à peu près 16-17, seront dans les conditions du direct télé avec nous, et avec un plateau en France et une salle qui respecte évidemment les gestes barrières et toutes les recommandations sanitaires. Donc, on sera moitié moins. Et donc, c'est comme ça que les choses vont s'organiser. Et nous avons aussi la chance et le plaisir d'accueillir un orateur, un essayiste et un conférencier. On le fait tous les ans. Cette année, c'est l'essayiste et parlementaire Jean-Louis Bourlange qui fera une conférence dernier jour sur l'état de la politique en France. Donc on n'est pas tellement décentré, mais ça nous permet de revenir un peu sur la réalité aussi de nos sociétés.
Quel retentissement auprès du grand public pour nous?
Eh bien écoutez, on essaye d'avoir un retentissement auprès du grand public en ayant des passerelles avec la société. C'est ce que vous faites, c'est-à-dire relayer et permettre à un discours scientifique d'être perceptible, d'être compréhensible des uns et des autres. C'est que les addictions, c'est une discipline, ou c'est une, et en même temps c'est un fait à la fois scientifique, médical et sociétal. Quand on a un enfant, quand on a un conjoint, quand on a une conjointe, un aïeul, un proche qui a un problème d'addiction, la première des choses que l'on voit, c'est d'abord la problématique au quotidien. On ne pose pas de diagnostic, on dit il va pas bien, il va mal, ou alors il est en train de filer du mauvais coton. C'est d'abord et avant tout le regard social et sociétal qui s'abat sur la personne. Et donc forcément, c'est une discipline qui doit aussi comprendre les codes de la société dans laquelle on vit et dans laquelle on évolue, et qui, par la compréhension, par retour de fait, on peut les aider aussi.
Le congrès a débuté aujourd'hui. Quels sont les premiers sujets?
Il débute à 13h.
Il débute à 13h. Alors, quels seront les premiers sujets qui vont être déposés sur la table?
On va commencer par parler des problématiques somatiques, c'est-à-dire les conséquences des addictions, avec un symposium et des sessions plénières sur le foie. Sur le foie et les conséquences du foie. On va parler aussi du cancer, on va parler du tabac. Voilà. On va aborder à la fois la problématique globale, la compréhension des mécanismes des addictions, et ce qu'on en sait de plus en plus, mais en même temps, on a un apport par produit et par discipline. Et c'est comme ça qu'on avance de fil en aiguille, d'une perception très spécialisée de l'addiction vers une perception plus simple à comprendre pour le grand public avec le débat jeudi le 3e.
Qui auront lieu. Merci professeur Benyamina. Je rappelle que vous êtes psychiatre addictologue en région parisienne.
Season, like I can't see you, but you know I got my eyes on you. Fell in love with the bartender, we partaking with the money involved. Figure hustle till God come down. Free for fucking this and be in the same shit, but ain't no gonna be all let down. I'll cheer to the sundown. See, everything I do for the gang. Don't call me bro, you're not family. Them boy father, I am granddad. Live by the G-code, that's loyalty. Yeah, them boy the brass, that's why they mad up. Me, I just love them boy. Yeah, ghost in town, said it's not that. You just can't fuck with me. See me, I'm persistent, boss, not assistant. So you never can, young boy, me. Young boy, never broke again. I fucked her, never spoke again. Promise I never re-offend, but sometimes break promises.
It's kinda tight, this is the key one. Oh, 079 me, I don't do fun. I just want you for one night. Every and I got it from. I don't know when the money call, I gotta go. Tracksuit fitting for the show. Dark shades on, gotta keep it on the low.
See, everything I do for the gang. Don't call me bro, you're not family. Them boy father, I am granddad. Live by the G-code, that's loyalty. Yeah, them boy the rust, that's why they mad up. Me, I just love them boy, the bad.
Common sense, you know I've won. Girl wanna hold me for ransom. Girl wanna throw me some tantrum. But I'm no fine, girl, money say handsome. Getting paid pound in my fresh accent. Foreign girl talking in a foreign accent. Kelly kinda wish she had me back then. Nah, bitch, nah, that's past tense.
Cause I'm myself, cause I'm fire as hell. You say you've been trapping, but I really kinda tell. You know I'm getting money, she could tell by my smell. Sticking that Chanel bag, got the Cali as well.
Them boy, they're brass, but they wanna talk my name. You could dress like me, but we'll never be.
See, everything I do for the gang. Don't call me bro, you're not family. Them boy father, I am granddad. Live by the G-code, that's loyalty. Yeah, them boy the brass, that's why they mad up. Me, I just love them boy the brass. See, everything I do for the gang.
C'était NSG avec Granddad. Demain, nous parlerons d'une maladie inflammatoire de la peau, le psoriasis. Vous êtes concerné, intéressé, vous voulez participer à cette nouvelle discussion. On y arrive, tout va bien. Appelez-nous le 00 33 1 84 22 75 75. Merci à l'équipe pour la préparation de l'émission du jour. Assetou Samake, Ophélie Lassen, Louise Kalidek et Didier Bleu. Merci à vous, auditrices, auditeurs, pour cette prise de parole. Prenez soin de vous, sortez masqués.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.